Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le sujet des migrations au Maroc est-il dans l'impasse? C'est la question que se posent une dizaine de journalistes et chercheurs dans une série d'enquêtes publiées sous ce titre par la maison d'édition de Casablanca en toutes lettres. Cet ouvrage précieux raconte la face humaine de la migration subsaharienne au Maroc, ceux qui sont en transit, ceux qui s'installent, ceux qui aident. Sans oublier l'autre face de ce phénomène migratoire, ces Marocains qui sont eux-mêmes des migrants vers l'Europe. L'ouvrage est coordonné par l'un des auteurs, Hicham Oudaïfa, directeur de la collection Enquête chez l'éditeur. Il est notre invité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Hicham Oudaïfa.
Bonjour.
Nous sommes en ligne avec vous depuis Casablanca où vous résidez et travaillez. Et avec vous, nous parlons de ce livre sur les migrations au Maroc que vous publiez chez l'éditeur marocain En Toutes Lettres dans la collection Enquête que vous dirigez. Hicham Oudaïfa, quelle urgence y a-t-il à publier un ouvrage sur ce thème ?
L'urgence est d'abord nationale puisque le Maroc est un des rares pays du sud de la Méditerranée à avoir démarré, il y a quelques ans, en 2014, sa première campagne de régularisation des migrants subsahariens qui sont installés dans le territoire marocain, suivie d'une deuxième campagne de régularisation. Au total, 50 000 migrants subsahariens ont été régularisés. Donc, le Maroc a également fait part de sa stratégie de traitement de la migration au Maroc. Et donc, c'est une stratégie qu'on a tous applaudie. Mais le problème, c'est que nous nous retrouvons devant une impasse, d'où le titre du livre, parce qu'il y a eu ces initiatives-là, mais qui ne sont pas suivies par une véritable insertion de ces migrants. Donc, on donne un papier qui va courir sur 2 ans ou 3 ans, où la personne peut mouvoir comme elle veut dans le pays, mais aucune stratégie d'insertion professionnelle au niveau de l'insertion scolaire, il y a encore des choses qui manquent. Et puis, il n'y a aucune possibilité de citoyenneté pleine, c'est-à-dire que cette migration-là n'aboutit pas à une obtention de la nationalité, comme c'est le cas dans les autres pays. Donc, cette urgence est nationale parce qu'on a envie, en tant qu'intellectuel de ce pays, de pousser l'État marocain vers plus de droits pour ces migrants-là, pour faire aboutir ces campagnes de régularisation, faire aboutir cette stratégie. Puis l'urgence, elle est internationale parce que la migration est un sujet fourre-tout. Partout, on en parle en des termes très, très négatifs en Europe et aux États-Unis, mais également dans nos pays. On dépeint les migrants comme des personnes nocives, alors que les chiffres le montrent. La migration est quelque chose qui apporte un surplus économique pour les pays accueillants, une mixité sociale et culturelle positive toujours pour les pays. Et donc, ce livre est venu pour ces deux raisons-là.
Alors, ce n'est pas un livre d'universitaire, mais un livre de journaliste. Pourquoi ?
Parce que nous avons démarré cette collection il y a quelques années avec Kenza Sfrioui, qui est également fondatrice de la maison d'édition En Toutes Lettres. Cette collection Enquête, qui est une collection dédiée aux journalistes d'investigation à l'écoute de la société, nous pensons que l'enquête et le reportage sont de bons instruments, d'excellents instruments pour donner des clés de compréhension de ce qui se passe dans nos pays. Nous avons donc décidé d'alimenter cette collection-là. Et nous avons donc sorti un livre sur la précarité féminine au Maroc. Nous avons sorti un livre sur l'extrémisme religieux au Maroc. Nous avons fait une enquête sur les travailleuses agricoles marocaines au sud de l'Espagne. Et là, la migration, nous la soumettons aussi à cet exercice journalistique parce que nous avons la conviction que l'enquête et le reportage peut donner lieu à une compréhension plus saine de ce qui se passe dans nos pays.
Oui, alors on considère généralement, Hicham Oudaïfa, que le Maroc est un pays de transit, on le sait. Hein. Beaucoup de migrants venus d'Afrique subsaharienne qui traversent le pays pour passer en Espagne et en France et en Europe plus généralement. Mais le Maroc serait donc, selon vous, devenu aussi une terre d'installation ?
En fait, le plan A qui a poussé les migrants subsahariens à venir au Maroc pour passer par les enclaves de Ceuta et Melilla et passer en terre européenne, s'est transformé au fil des ans à un plan B parce que les politiques restrictives appliquées par l'Europe pour empêcher les migrants de passer de l'Afrique, notamment du Maroc, vers l'Europe, ont fait que beaucoup de ces migrants se sont installés au Maroc. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à concevoir leur vie au Maroc. Et donc, on n'est plus devant le scénario des années 2003, 2004, 2005, où les migrants subsahariens venaient monter au nord du Maroc pour trouver l'occasion de passer de l'autre côté des grillages qui séparent le Maroc de ses enclaves. Maintenant, on est devant une situation où on a pas mal de migrants qui sont installés au Maroc depuis des années, qui ont des enfants au Maroc et qui travaillent au Maroc et qui ont même envie de rester au Maroc. Nous avons également des étudiants subsahariens qui sont venus étudier au Maroc, puisqu'encore une fois, les portes de l'Europe leur sont fermées, et qui, après obtention de leur diplôme, travaillent dans les entreprises marocaines, se marient parfois à une marocaine ou à une subsaharienne, ont des enfants dans ce pays. Et donc, nous nous retrouvons dans un autre scénario qui n'a absolument rien à voir avec les premières années de la migration subsaharienne au Maroc. Voilà.
Alors justement, qui sont-ils, ces migrants, ceux qui viennent et qui finalement s'installent? De quel pays généralement viennent-ils et combien sont-ils au Maroc aujourd'hui?
Ils viennent de tous les pays subsahariens. Nous avons au Maroc une tradition de migration des pays de l'Afrique de l'Ouest bien avant ce cycle migratoire récent, notamment du Sénégal, qui est un pays proche du Maroc, et du Mali, du fait que, bon voilà, il y a une histoire commune avec ces pays-là, notamment une histoire religieuse commune, de Zawaya, ils sont tous des Tidjanes, en grande partie, une partie d'entre eux sont des Tidjanes, qui est une Zawiya marocaine à Fès, mais ils viennent également de la République démocratique du Congo, du Cameroun, ils viennent de la Côte d'Ivoire, aussi des pays anglophones comme le Nigeria. Donc nous avons vraiment une diversité au niveau des nationalités, mais nous avons également une diversité au niveau des profils, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a des migrants qui viennent pour étudier, qui repartent dans leur pays ou qui restent au Maroc. On a des migrants qui viennent au Maroc parce qu'ils fuient la guerre, parce que au Libéria ou dans les pays du Sahel, où ils viennent chercher un avenir meilleur. Bien sûr, leur rêve, c'est l'Europe, mais après, le Maroc, c'est stable, donc c'est meilleur que chez eux. Et puis, nous avons des migrants économiques qui viennent au Maroc parce que les conditions de vie sont effroyables dans leur pays. Donc, on a cette diversité-là. La campagne de régularisation a touché 50 000 migrants de toutes les nationalités. Et on estime le nombre des migrants, selon le dernier sondage du ACP en 2014, si je ne me trompe pas, dans les 90 000. Donc, c'est des chiffres qui ne sont pas énormes. Nous n'avons pas une population importante. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons également des migrants blancs, mais ceux-là, on les nomme les expatriés du fait qu'ils sont d'Europe, principalement de France, mais qui n'ont pas le même statut que les migrants subsahariens.
Voilà, ceux qui viennent passer leur retraite au Maroc dans des conditions, disons, générales, beaucoup plus calmes et plus ensoleillées peut-être qu'en Europe. Est-ce que les migrants, disons les migrants qui viennent du reste de l'Afrique, sont l'objet de discriminations particulières au Maroc et si oui, lesquelles?
Le titre du livre le montre bien, on parle d'impasse même si on met un point d'interrogation après, parce que il y a des traitements qui sont discriminatoires envers ces migrants, notamment des rafles qui parfois sont extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'on rafle des personnes, notamment ceux qui sont dans les forêts autour des enclaves, parce qu'ils cherchent le moyen de partir, mais qui sont traités selon les associations des droits humains qui travaillent dans ces régions-là de manière discriminatoire, brutal, parfois on leur vole leurs affaires, parfois ils passent même pas par la case justice et ils sont renvoyés du côté de la frontière algérienne ou dans le désert. Donc on a vécu ces dernières années des reflux qui montrent que la gestion de la migration n'est pas encore idéale dans notre pays et que le réflexe sécuritaire revient hanter cette partie de la population que l'on considère comme étant qu'ils devraient avoir les mêmes droits que les Marocains. C'est pour ça qu'on parle de citoyenneté pour tous, pour ces migrants et pour les Marocains. Et donc, effectivement, il y a des choses et des discriminations au niveau de leur traitement par l'État et dont on parle dans le livre.
Oui, il y a des mesures réglementaires, ça c'est certain, mais que ces mesures réglementaires sont peut-être limitées ou en tout cas embryonnaires.
Exactement, c'est ça, ouais.
Vous écoutez Orient Hebdo et nous sommes en ligne avec Hicham Oudaïfa depuis Casablanca pour parler des migrations au Maroc. Alors parmi les migrants clandestins, il y a beaucoup de mineurs, vous le dites dans le livre. On les trouve souvent au carrefour des grandes villes à faire la manche. Le problème, c'est que beaucoup échapperaient aux radars officiels comme à ceux des ONG qui leur viennent en aide. Pourquoi cette situation particulière des mineurs ?
Les mineurs font partie de ceux qui essaient de chercher un avenir meilleur pour les leurs. Un des textes qui est écrit par une de nos journalistes qui s'appelle Les Petits Combattants, parle de cette catégorie de migrants, du chemin traversé, parce que c'est des gamins qui ont vécu des choses parfois effroyables, et du traitement quand ils arrivent au Maroc qui leur est réservé. Alors, n'oublions pas que au Maroc aussi, nous avons énormément de migrants qui essaient de passer en Europe, et on voit ce qui s'est passé à Paris avec l'affaire de la Goutte d'Or et des migrants marocains mineurs qui sont dans cette région de Paris. Et puis au Maroc, c'est la même chose. Donc, on a une partie de ces migrants qui sont des mineurs subsahariens, et on a fait le récit de leur quotidien qui est fait de beaucoup de violence et de vulnérabilité.
Et l'autrice de cet article, qui est Dounia Msefer, elle met l'accent aussi sur les ONG qui aident ces jeunes à s'en sortir. Et il y en a de ces associations, notamment par exemple l'association Kirikou, mais il y en a d'autres aussi.
Nous avons au Maroc cette belle particularité qui est celle d'une société civile assez active. C'est pour ça qu'on a réservé un de nos textes à des portraits de militants de la migration, parce que si au Maroc on a pu arriver à avoir une politique migratoire, c'est bien grâce à la pression qui est faite par ces associations-là, qui sont des associations marocaines ou des associations de migrants, comme Kirikou. Mais on a la Fondation Orient-Occident qui fait un travail magnifique à Rabat. Nous avons le GADEM, qui est un groupement qui a fait un travail de plaidoyer qui est exceptionnel. Nous avons les différentes sections de l'Association marocaine des droits de l'homme qui, chaque fois qu'il y a une atteinte à ces droits-là, ils montent au créneau, mais aussi des associations qui accompagnent ces mineurs-là, qui font un travail au quotidien pour pouvoir les faire sortir de leur misère en leur proposant des activités sportives, par exemple. Et donc, effectivement, cette société civile-là fait un travail exceptionnel. Mais bien sûr, il faut rappeler à l'État ses obligations, parce que les moyens de cette société civile ne sont pas assez suffisants pour pouvoir remplir ce rôle régalien qui est celui de protéger, d'accompagner ces migrants-là, de les protéger, de leur donner les moyens de sortir de leur précarité.
Hicham Oudaïfa, comment se passe la cohabitation entre les Marocains de souche et ces migrants subsahariens qui s'enracinent? Vous donnez deux exemples, à Oulfa, quartier de Casablanca, et aussi à Takadoum, quartier de Rabat.
Le texte de Danielle N'Golo, qui est une journaliste saharienne qui travaille dans un quotidien marocain qui s'appelle Al-Bayan, s'appelle Billet Retour à Oulfa. Nous avons choisi deux quartiers qui sont les quartiers d'installation des premiers migrants qui sont venus au Maroc, donc Takadoum à Marrakech et Oulfa à Casablanca, parce qu'on voulait voir comment ça se passe aujourd'hui, presque 15 ou 20 ans après leur installation. Bien sûr, les premières années d'installation étaient très difficiles. Il y a eu énormément de discrimination par rapport à cette population. Mais on a trouvé que des années après, des pratiques de solidarité de classe commençaient à apparaître. On voit très bien que ces populations qui ont un destin commun de précarité commençaient à vivre en bonne entente, malgré, et bien sûr, la persistance de certains aspects de racisme et de discrimination. Mais il y a quelque chose, la sauce commence à prendre. Et on voit qu'il y a un voisinage qui devient beaucoup, beaucoup plus en paix que ce qu'il était auparavant.
Donc, il y avait à une certaine époque, me semble-t-il, c'est ce qui ressort en tout cas de l'article, une certaine jalousie de la part des Marocains qui voyaient des subsahariens finalement s'en sortir avec des commerces, etc. Ça a tendance à disparaître ?
Je dirais pas que ça disparaît. On a encore des manifestations de discrimination et de racisme, parfois de violence, notamment dans la ville de Tanger, on a eu quelques événements où il y a eu mort d'homme même. Et donc, on ne peut pas dire que voilà, ça a totalement disparu. Mais on commence à voir des manifestations de vivre ensemble beaucoup plus sereines qu'auparavant. Mais cela dit, le travail reste lent parce qu'effectivement, il y a un sentiment qu'on entend parfois chez nos concitoyens marocains en disant « Regardez là, ils ont beaucoup plus de droits que nous. Nous sommes pauvres, nous sommes marocains et on n'a pas les droits que ces subsahariens commencent à avoir » alors qu'ils sont là depuis quelques années, c'est-à-dire des choses classiques qu'on peut entendre ailleurs, en Europe et ailleurs. On a ça, donc il faut faire attention à ces choses-là. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'humaniser cette question-là, que ceux qui écrivent sur la migration décrivent ce qui existe réellement. Et ce qui existe, c'est aussi ce que Daniel a raconté, c'est-à-dire un vivre ensemble de destins communs qui commence à s'installer dans les quartiers historiques d'installation des subsahariens.
Alors, une conséquence inattendue, lorsqu'on lit cet ouvrage, de ces immigrations subsahariennes, c'est le renouveau du christianisme au Maroc. Est-ce parce que le pays est plus tolérant, peut-être, que les autres, aux autres religions que l'islam ?
Ce qui existait, c'est qu'on avait des églises catholiques et protestantes qui sont restées du temps du colonisateur, c'est-à-dire de la France. Et après la fin de la colonisation, cette population française qui est restée au Maroc, ou européenne, vieillissait et donc beaucoup de ces lieux cultes commencent à devenir des déserts. Alors, ce qui s'est passé, c'est avec l'installation déjà des étudiants subsahariens, puis après des migrants, on a eu ce qu'on appelle en anglais un revival.
Un renouveau,
voilà, de ces églises-là. Ces églises ont pris une autre couleur. Les pratiques à l'intérieur de ces églises étaient différentes de celles où il y avait une population européenne. Et donc, Sophie Bavard, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé au Maroc, a fait un travail exceptionnel pour nous raconter tout cela. Et donc, on a vu que c'était important de pouvoir l'interviewer. Et à la lecture de l'interview, comme de ce qu'elle raconte, on découvre vraiment une église marocaine. Et aujourd'hui, les messes sont très intéressantes à regarder. Alors, on a aussi des églises africaines qui se sont installées. Et donc, tout cela a fait que ces églises-là se sont renouvelées avec la venue de ces migrants-là.
Le Maroc est donc à la fois, on vient de le voir, une terre de transit et une terre d'immigration.
Ouais.
Mais vous n'oubliez pas que les Marocains émigrent également et vous leur consacrez un chapitre.
C'était très important pour nous de rappeler à notre lectorat, qui est principalement marocain, que quand on parle de migration clandestine, de harig, comme on dit en arabe, harig vient de brûler, c'est avant tout quelque chose qu'on a découvert avec notre propre population et que ça existe encore aujourd'hui et beaucoup de Marocains meurent en essayant de partir en Europe. C'est-à-dire que c'était très important pour nous de remettre les choses dans leur contexte et de dire que comme ces migrants qui viennent, nous essayons aussi de partir pour un avenir meilleur. Et c'est aussi un message à tous ceux qui aujourd'hui, chez nous, principalement au Maroc, qui considèrent que la migration clandestine ou la migration économique, c'est une migration subsaharienne, pour leur dire attention, nous aussi, on fait partie de cette population. On a eu l'année dernière un drame qui a touché plusieurs villages marocains et Salah Eddine Maizi, qui est l'auteur de ce texte, est parti dans ces villages-là pour nous décrire un peu ce qui s'est passé après et tout le malheur et le drame de perdre un enfant de cette manière-là, histoire aussi de rappeler qu'on a un destin commun avec nos frères subsahariens, parce que les Marocains, en général, quand ils parlent des subsahariens, ils disent les Africains, comme s'ils ne sont pas eux-mêmes Africains, et c'était une manière à nous de rappeler l'africanité du Maroc et le destin commun qu'on a avec les migrants subsahariens.
Oui, l'histoire à laquelle vous faites allusion, c'était ces jeunes de l'arrière-pays de la province de Kelat Sragna, si je prononce bien, qui sont partis et dont le bateau s'est retourné en mer Méditerranée et qui sont donc décédés, tous ces jeunes.
Exactement, oui.
Enfin, votre livre n'oublie pas les porte-voix des migrants, ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie et leur énergie à aider ceux qui ne cherchent qu'à vivre un peu mieux au Maroc ou ailleurs. Donc, vous leur consacrez un article également dans ce livre.
Effectivement, on est fiers d'avoir un début de politique migratoire humanisante pour les migrants du Maroc. C'est grâce à ces personnes-là qui, au départ, nous ont montré à nous, journalistes, qu'il y avait des exactions par-ci, des populations qui étaient regroupées dans des conditions inhumaines par-là, un traitement inhumain des autorités dans une région du pays. Ces militants de la migration qui se sont battus pour déjà faire sortir cette question-là de l'anonymat, humaniser aussi en racontant ces histoires-là de ces migrants, c'est qui ces migrants, en leur donnant un visage, en parlant de leur parcours, parce qu'on oublie beaucoup qu'avant de venir au Maroc, beaucoup de ces migrants ont vécu des choses très graves. On en parle dans le livre, des viols, des vols, des nuits et des jours sans dormir, parce que c'est une longue route qui passe par plusieurs pays subsahariens, qui passe par l'Algérie, puis après le Maroc. Et donc, nous avons tenu à rendre hommage à ces militants-là, à ces porte-voix de la citoyenneté pour tous, parce que, bon voilà, ils le méritent bien, et parce que c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est en ayant ces consciences-là, en les honorant aussi, qu'on peut avancer vers un Maroc de la dignité pour tous.
Merci Hicham Oudaïfa, directeur de la collection Enquête au sein de la maison d'édition En toutes lettres à Casablanca.
Merci beaucoup pour votre intérêt aussi pour ce livre. Merci beaucoup.
Casablanca aux Nouveaux Apollions et la maison d'édition En toutes lettres qui publie cet ouvrage sur lequel nous sommes appuyés, Migration au Maroc, l'impasse. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. Dans un instant, le journal. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. On se retrouve avec plaisir samedi prochain, même heure.
Tout à l'heure.